Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment en viennent les idées? Comment se fabrique un concept? À quoi ressemble l'atelier du philosophe? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par elle-même de la philosophe Avital Ronel. Bonjour à vous.
Bonjour, merci Adèle.
Everybody, all around the world, every boy and every girl, they're taking a lesson from me, doing the stupidity. And oh, my mama, she says it's silly. My papa says I look like a fool.
Vous connaissez cette chanson, Avital Ronel?
Ah, maintenant je la connais, oui.
Et vous avez évidemment deviné pourquoi on l'a diffusée dès le début de cette émission. Stupidity, c'est le titre de cette chanson des Van Dykes. C'est aussi le titre de l'un de vos livres que vous avez publié en 2006, en France en tout cas. Un essai sur la stupidité pour montrer la dimension politique de la stupidité.
Voilà, oui, c'est vrai.
Alors, il y a eu la stupidité. Vous avez aussi fait paraître depuis Ligne de front un ouvrage intitulé aussi Losers, les figures perdues de l'autorité. En 2019, cette année, un ouvrage sur l'art de se plaindre dont nous sommes devenus experts. On va parcourir votre bibliographie ensemble, Avital Ronel. Mais d'abord, je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
Chaque jour, c'est une question qui se pose. Donc, je sais qu'en France, on te confère cet honneur très vite, mais effectivement, j'ai fait des études en philosophie, j'ai commencé comme germaniste, donc je me rends pas vraiment compte et il y a toujours la réponse possible que Hannah Arendt a donnée, c'est-à-dire qu'une femme peut pas dire en bonne conscience ou sans rigoler qu'elle soit philosophe. Elle est un peu exclue de cette possibilité. Bon.
Vous pensez que c'est vrai?
Oui, oui, mais c'est pour ça, il y a d'autres philosophies peut-être, comme le dirait Shakespeare, il y a d'autres rêves, il y a d'autres possibilités de faire exploser les bunkers philosophiques, mais il faut pas se faire des illusions en pensant qu'on est philosophe.
C'est des illusions, c'est toujours un mirage quand on dit qu'on est philosophe.
C'est-à-dire que c'est pas peut-être mauvais de se poser des questions constamment. Peut-être je suis un peu trop obsessionnelle par rapport aux questions que je me suis posées. Mais de dire qu'on est philosophe implique peut-être un peu de, ou trop peu d'inquiétude et questionnement.
Est-ce que c'est un métier?
Espérons-le, parce que ça te permet de te balader, de te perdre, de te libérer des institutions qui essaient de purifier, nettoyer ce que eux ils pensent la philosophie doit faire et être. Donc oui, les philosophes, disons comme Socrate, c'est pas des belles histoires. Je veux dire que c'est quelqu'un qui s'est baladé, qui a un peu harceler les gens avec ses façons de voyous dialectiques et finalement il était mis en question très sévèrement. Donc il y a ceux-là qui sont absolument obligés de faire face à l'hostilité des institutions et de l'État.
Et ça, c'est une manière de pratiquer la philosophie qui vous est chère. C'est comme ça que vous l'aimez, n'est-ce pas?
Oui, je le paye cher et je ne vois pas autre manière. Bon, je peux pas me ranger parmi les messieurs philosophes, ça serait ridicule. Et eux, ils ont Souvent, ils m'ont soutenu, mais non, il faut être sérieux là. Ils me trouvent souvent comme Kant a dit que si on est vraiment un philosophe, et là, je triche un peu parce que du coup, je deviens un vrai super, méga, ultra philosophe. Il a dit qu'on devrait pouvoir prendre le risque de se rendre ridicule, ce que je fais très bien.
C'est vrai?
Oui, je me rends. Oui, parce qu'il faut se manifester, il faut poser des questions dont personne ne s'intéresse ou qui sont un peu bizarres. Il faut tout mettre en question, il faut critiquer. Les gens sont, on en marre de cette attitude, disons un peu trop dure souvent.
On va passer 50 minutes ensemble, la Vital Ronel, pour explorer votre parcours philosophique. On va remonter jusqu'à votre rencontre avec la philosophie. On va questionner vos influences philosophiques, extra-philosophiques, pénétrer dans votre atelier de fabricante de concepts, réfléchir au rôle politique du philosophe, s'il existe, vous nous direz. Mais d'abord, on l'aura compris avec ce que vous venez de dire, hein, et ce sera très présent, j'imagine, tout au long de cet entretien. S'il y avait un terme, un endroit, un lieu, une entité autour de laquelle s'articule votre travail, ce serait sans doute celle de la marginalité, ce qui est en dehors. Les marges, vous parlez beaucoup aussi, le terme de déchet revient souvent sous votre plume, le back road, tout ce qui n'est pas exactement à l'endroit où se passent les choses officielles. Vous êtes toujours à côté, et là où c'est un peu sale aussi, non?
Oui, tout à fait. C'est pas du côté du propre que je me trouve, mais en même temps, je passe par des grands chemins de la philosophie parfois. Et c'est-à-dire que je ne garde pas l'éloignement comme quelque chose d'important en soi. Il faut souvent passer pour l'autre aussi. C'est-à-dire que souvent je me trouve à table avec les grands philosophes et je fais semblant de me sentir à l'aise et chez moi et donc je suis très nietzschienne, disons. Dans la mesure où je peux mettre des masques et jouer avec les autres adultes.
Oui, ça, c'est pas propre à la philosophie. C'est vous décrivez un phénomène social en général, non?
Voilà, voilà. Oui, mais c'est marqué socialement et par des toutes sortes d'arrangements et des décisions qui sont proprement, disons, sociales.
Mais quand vous décidez de faire de la philosophie, on va comprendre pourquoi dans un instant, et vous vous intéressez à ce qui jusque-là n'avait pas été considéré comme un objet de recherche par la philosophie.
C'est
pour ça que j'insiste sur le déchet, le sale, c'est une manière pour vous de caractériser ce qui est considéré comme indigne.
Tout à fait.
Par la philosophie. Cette fois-ci, c'est une posture théorique.
Tout à fait, c'est ça, oui. Oui, je me sens plutôt chez moi dans des... je ne sais pas comment dire, gutter, dans les rues et des...
C'est les égouts, quoi.
Oui, oui, je me sens, oui, à l'aise.
Bon, j'espère que vous êtes bien dans un studio aussi, celui-ci est propre, quand même.
Oui, malheureusement, bon, mais
on
bon...
On fait ce qu'on peut,
oui, voilà.
Pourtant, il fallait venir à une autre heure de la journée, en fonction de...
Ça me va, horaires. Parfois.
Est-ce que vous vous souvenez, à Vital Ronel, de votre première rencontre avec la philosophie?
Ça, c'est une bonne question parce que s'il y en avait une première rencontre, ça aurait dû me dévaster. Je crois que c'était par Hegel que je me sentais attirée à la philosophie, par la philosophie. C'était tellement difficile et dur et dense et pas du tout accueillant. Que là, je me
sens. Ça vous a plu?
Oui, parce que c'était pour moi, parce que comme le monde pour moi était inintelligible et violent, là, je me suis dit, mais voilà, on pourrait nager dans des vagues absolument dangereuses et oui, voilà.
Pourquoi le monde était-il inintelligible et violent?
Vous savez, j'étais une immigrante à New York. J'avais des parents qui sont ou étaient des juifs allemands. On était dès le début très inquiets et angoissés par ce qui s'est présenté comme des mondes possibles, c'est-à-dire très menaçants. Ce n'était pas évident qu'on pourrait comprendre les codes, travailler avec, habiter comme les autres. Il y avait des chrétiens autour de moi, du coup, à New York. J'ai rien compris à l'antisémitisme au début, bien que ce soit la première leçon de chaque enfant qui était né des Juifs allemands de cette génération-là. Donc, c'était une grande confusion et on se sentait vraiment vulnérable. Et là, du coup, je ne sais pas, la grande machine de Hegel m'a attirée parce que j'ai vu comme il a su, avec une souplesse et en même temps une autorité impressionnante, faire face à la mort, à ce qui donne ou casse le sens, si on peut dire.
Donc ça vous a aidé?
Oui.
La rencontre avec Hegel, à ce moment-là, c'était quelque chose de l'ordre d'une aide, quelque chose qui venait aider votre...
Bizarrement, les choses qui étaient du côté de l'inintelligibilité étaient pour moi des grands cadeaux dans la vie. Oui, parce que du coup, je n'étais pas censée... Bon, il y a une rigueur, une logique, une beauté de la démonstration, mais... On voyait que tout était un effet d'une espèce de lutte pour et contre la compréhension.
Et la lutte, comme l'hostilité, le combat, sont des choses qui vous sont chères.
Oui, ça me donne de l'énergie, souvent.
Et à quel moment est-ce que vous décidez de faire des études de philosophie, de devenir professeur de philosophie, d'en faire votre métier, au fond ?
Bon, je suis passée par le milieu des études germaniques, et je me suis intéressée à la littérature, à la poésie et finalement aussi à la philosophie. Et lorsque, pour moi, c'est devenu évident que je devais continuer mes études avec Derrida, un jour, il m'a présenté à quelqu'un et j'étais très ennuyée. Ça m'a choquée que je sois considérée comme présentable. Et j'ai dit, mais j'ai protesté, j'ai dit, ah non, je ne suis pas philosophe. Et il m'a dit, mais non, vous êtes un philosophe de choc. Et c'était la première fois, et c'est comme s'il m'a donné une espèce d'identité provisoire, bien sûr, mais en même temps, c'était comme un devoir désormais, une obligation et même une injonction. Lorsque quelqu'un te dit ce que tu es ou devrais être, bon, en tant que névrotique obsessionnelle, pour moi, c'est devenu la loi.
Oui, parce que c'est-à-dire quand quelqu'un vous dit, quand Dieu vous dit qu'il faut être ceci, on le fait. Bon, là, voilà, c'était Derrida, voilà. C'est peut-être pareil à ce moment-là. Et chez Derrida, vous avez retrouvé cette même inintelligibilité qui vous a tant séduit chez Hegel ? Parce que c'est une méthode très différente, c'est la déconstruction, on est bien loin de la dialectique hegelienne.
Tout à fait, vous avez raison, non. Bon, ça va faire un peu pervers peut-être, mais là, j'ai trouvé que tout était devenu compréhensible tout à coup. Bon, le reste du monde dirait peut-être le contraire, parce qu'on se plaint toujours qu'il est trop difficile, on comprend pas toujours de quoi il s'agit et les enjeux emmerdants tout le temps, il faut tout mettre en question. Mais pour moi...
Vous parlez de la déconstruction, là.
Oui. Pour moi, c'était une espèce... C'était la première fois où je pouvais respirer, où je me sentais la bienvenue et que je pouvais faire du travail que j'avais besoin de faire. Au lieu de... Bon, mais c'était un entraînement très dur et très rigoureux et il fallait vraiment se montrer prêt à faire le travail de la déconstruction. Donc, je ne sais même pas si je le fais proprement, improprement dit.
Derrida a beaucoup compté pour vous. À ses côtés, une autre personne, un autre philosophe a également beaucoup compté pour vous. Voici sa voix.
J'enseigne la philosophie, je travaille avec des instruments philosophiques, je ne suis pas philosophe, je n'ai pas de philosophie personnelle. Je doute même aujourd'hui qu'il puisse y avoir encore une pensée philosophique, on me le reproche assez ça d'ailleurs. Je veux dire que bon, je ne crois pas qu'il puisse se produire une philosophie sur le modèle de ce qui s'est fait, disons, entre Platon et Heidegger.
Qui venons-nous d'écouter, Avital Ronel?
Ah, Philippe, la Coulabarthe. Oui, quelle voix, merci, je suis très émue.
C'était en 1992, dans l'émission À Voix Nue sur France Culture.
Oui, oui, ça ne m'étonne pas.
Quand l'avez-vous rencontré?
Assez tôt, en 80 quelque chose, en Californie. Et on est devenus amis assez vite, et il est venu à Berkeley, et j'étais prof à Berkeley à l'époque, on s'est vu tout le temps, c'était vraiment, c'est toujours un ami introjeté et auquel je fais appel, je compte sur lui, je lui parle, je lui fais des reproches, j'ai besoin.
Oui, vous en parlez dans votre dernier livre, hein, le chapitre s'appelle « Coup porté à l'amitié » et vous racontez cette relation finalement assez compliquée.
Oui.
Enfin compliquée, est-ce que c'est le terme? Je ne sais pas, mais ambivalente en tout cas.
Oui, malheureusement, bon, j'ai été obligée de couper en deux ce chapitre en anglais. Ça continue. Finalement, je déclare mon amour pour cet ami perdu. Mais d'abord, il faut que je dégage des ennuis, des conflits qu'on avait, des problèmes et des accords. En même temps, c'était quelqu'un qui était d'une telle probité et honnêteté et rigueur. Et c'était un vrai ami. J'avais l'impression qu'on pouvait lui demander n'importe quoi. Il arrêterait tout pour t'écouter. Donc, c'était quelqu'un de très sérieux et généreux. Et aussi, c'est quelqu'un qui connaissait la détresse dont il a écrit.
Et lui, il le dit dans l'extrait qu'on a entendu, hein, j'enseigne la philosophie, mais je ne suis pas un philosophe et je n'ai pas de pensée philosophique. Que diriez-vous de votre travail, Avital Ronel?
Je voulais juste dire que c'est très typique de sa modestie.
C'est de la modestie?
Il a écrit un essai assez remarquable sur la modestie et souvent je l'enseigne cet essai parce que je trouve que les jeunes philosophes de nos jours montrent souvent l'arrogance intrusive et trop sûrs d'eux-mêmes. Et donc, on commence par lui et Heidegger, was heißt denken.
Qu'appelle-t-on penser?
Merci. Oui, donc j'ai beaucoup appris de la Coulabarthe à propos de la modestie et aussi à propos de l'exaspération du dire. Donc, il est très modeste aussi par rapport à ce qu'on pourrait arriver à découvrir, à affirmer, à savoir. Et donc, ça m'a... Et pour beaucoup parmi nous, c'était grâce à lui qu'on a pu faire le retour à la pensée allemande. C'est-à-dire que lui n'était pas dans le déni, ni dans le... Il désavouait...
Donc nous, c'était ceux qui croyaient en la déconstruction à ce moment-là, c'est ça?
C'est-à-dire beaucoup des gens qui faisaient de la philosophie, même pré-déconstructrice. On avait quand même nos phobies historiques et des difficultés à nous rendre à la philosophie allemande parce qu'il y avait un petit problème historique. Qu'on connaît, on a toujours su pour Heidegger, bon, ça s'est aggravé, mais c'était évident qu'il était vraiment baigné dans l'antisémitisme et des choses qui nous répugnaient un peu. Donc, grâce à Philippe Lacoulabarthe, on pourrait dire, et sûrement grâce aux autres, Lyotard et autres, Sarah Kaufman peut-être. Mais lui, surtout, il était vraiment d'une probité énorme et il marquait, il disait son désaccord avec les Allemands. En même temps, il a construit une espèce de pont entre les Français, la pensée française, disons trop vite, et celle des Allemands, avec ses réserves, ce qu'il appelait son hésitation rigoureuse. Et donc, avec lui, on pouvait s'affronter au texte très douloureux, mais nécessaire pour notre vie de philosophe.
Quand on vous a demandé quels étaient les films, les musiques qui comptaient pour vous, vous nous avez parlé de deux films qui ont pour point commun de parler de manière plus ou moins directe du sujet de l'éducation. Un professeur avec ses élèves, voici le premier extrait.
Well, I'm gonna look inside that chest. Go ahead and look.
Ah non. Robert, vous vous rappelez la discussion que nous avons eue avec M. Kentley. Rappelez-vous ce que l'on a dit. La vie des êtres inférieurs n'a aucune importance. Tous les concepts moraux du bien et du mal, du vrai et du faux, n'ont aucune valeur pour les êtres supérieurs, intellectuellement parlant.
Vous m'avez jeté mes propres paroles en pleine figure, Bernard. Mais vous leur avez donné un sens spécial auquel je n'avais jamais voulu songer. Vous les avez travestis en une froide et savante excuse pour accomplir un meurtre. Elles ne furent jamais ça, Bernard.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et la musique du film d'Alfred Hitchcock, The Rope, en anglais, la corde en français, où l'on voit des étudiants mettre en œuvre à la lettre le texte nietzschéen que leur professeur, joué ici par James Stewart, leur a enseigné. Celui-ci va découvrir ce qu'il s'est passé et donc les étudiants, pour se justifier, disent « Mais c'est vous qui nous l'avez enseigné, c'est du Nietzsche dans le texte. » Pourquoi ce film vous parle-t-il autant, Vital Ronel? On y retrouve la perversion d'ailleurs dont vous avez parlé. Hein.
Merci. Voilà, d'une part, il s'agit de Hitchcock et évidemment, il a une compréhension assez profonde de ce que c'est les pièges de la pédagogie contemporaine, c'est-à-dire on se croit dans une, je ne sais pas, on croit qu'on est en train de lire avec les étudiants, d'interpréter des textes. Et par exemple, James Stewart, comme vous venez de dire, venait d'enseigner un cours sur Nietzsche. Et il se trouve que les étudiants ont pris ça littéralement et ont assumé les leçons sur surhomme. C'était des étudiants nazifiés par le cours. Et James Stewart en est horrifié. Donc, ces scènes de transfert, des malentendus, des meurtres qui sont commis, sont, disons, ça fait partie de la logique souterraine de l'enseignement. Donc, on n'est jamais sûr de ce qui va être projeté sur vous ou ce que les autres pensent avoir compris. Et là, la question, bon, là, c'est hyperboliquement mis en scène, mais en même temps, ça se pose cette question. Qu'est-ce qu'ils ont cru avoir compris? Est-ce que c'était une injonction de ma part, disons, lorsqu'on devient un peu passionné, charismatique par rapport à la pensée de Nietzsche, disons? Est-ce que l'autre entend ça comme moi, j'ai eu tendance à le faire, comme un appel qu'il faut. Et un appel à quoi? Et là, c'est vraiment un cas limite de ce que c'est les disons, facettes meurtrières de l'enseignement. Et j'ai l'impression souvent, je connais d'autres grands profs comme Hamacher ou Kittler en Allemagne, et ils ont, surtout Friedrich Kittler, il a psychotisé ses étudiants. Et ça arrive surtout en Allemagne, et comme ça m'intéresse, et c'est l'objet de mon travail aussi. Hitchcock a vraiment compris quelque chose avec son film qui s'appelle La corde, et c'est une espèce de signifiant sans contenu, mais qui se balade dans le film comme une espèce de laisse qui assure le transfert.
Ça veut dire que la relation prof-élève, c'est comme une relation psychanalyste-patient?
Souvent, ça exige et implique et peut pas se débarrasser de ce côté compliqué et dangereux du transfert. Oui, c'est souvent le cas. Maintenant, on essaie aux États-Unis d'arrêter les transferts, les contre-transferts. C'est pas nouveau. Depuis Socrate, on n'était pas d'accord qu'il attire les étudiants vers lui. Et c'est toujours un danger. Mais là, dans le cas de James Stewart, il est vraiment choqué de savoir à quel point il a été compris. Bon, Derrida dirait peut-être, je suis jamais sûre de savoir ce qu'il dirait, mais il dirait peut-être que finalement, ils avaient raison, ces étudiants. C'est comme ça qu'il faut suivre un
vous prof. Pensez?
Non.
Il plaiderait en faveur d'une lecture littérale de Nietzsche?
Je dis qu'il y a toujours ce danger, il y a toujours un programme à l'intérieur de l'enseignement ou à l'intérieur d'un texte qui invite à une conclusion catastrophique.
L'autre extrait que vous aviez proposé dans un autre registre est celui-ci.
All right, sit anywhere. We'll arrange permanent seating later. You want to close the door for me then?
Hey, how about that, Miss Hammond?
Let's break it up back there. Hear what I said? I said break it up.
Why?
Qu'est-ce que vous avez dit?
Ben, j'ai dit pourquoi.
Asseyez-vous. Voici mon nom. Dadil. Je ne sais pas qui c'est, mais il vise bien mal, vous ne croyez pas?
Et Henri, qu'est-ce que t'en dis de monsieur Daddy Ho?
Daddy Ho, Daddy Ho, Daddy Ho, Daddy Ho, Daddy Ho, Daddy Ho.
C'est terminé. La prononciation est à mes yeux un point très important sur lequel je reviendrai souvent. J'ai horreur qu'on écorche mon nom.
Ah oui, moi aussi.
Taisez-vous. Et ôtez votre casquette quand vous êtes en classe.
Est-ce que ça vous est arrivé de vous battre seul contre 35, monsieur?
Black Road Jungle, graine de violence en français de Richard Brooks, qui est sorti en 1955 avec Glenn Ford dans le rôle de Richard Dadier, on le dirait en français. Alors ce professeur qui est un professeur débutant dans un lycée qu'on dirait professionnel et qui se fait harceler, moquer, molester par ses élèves et qui envers et contre tout veut être fidèle à sa mission de professeur. Mais entre l'extrait de la corde et celui-ci, Avital Ronald, c'est une sacrée image du métier d'enseignant que vous livrez là.
Oui, je suis amenée à y penser en ce moment, c'est-à-dire à penser à la violence souvent refoulée dans la scène d'enseignement. Évidemment, il y a des études sur la pédagogie et sur qui a peur de la philosophie et ce que cela veut dire de se confronter à une classe. Ce qui est ironique et dans ce film, c'est que le monsieur qui est prof, il vient de sortir de l'armée. Donc, il est militaire, mais il apprend une défaite qu'il n'a jamais eue pendant la guerre devant ses étudiants. Il n'a aucune autorité, il n'y a aucune structure qu'il peut, sur laquelle il pourrait compter.
Alors, par honnêteté pour nos auditeurs et pour comprendre peut-être la raison pour laquelle ces films vous intéressent, lorsque vous rédigez votre dernier livre, alors sur la plainte, on va en parler, parce que justement, vous essayez de montrer comment les différentes manières, voire l'art dont nous pouvons faire preuve pour porter plainte et se plaindre de quelque chose. Vous aviez rédigé ce livre et c'est en 2018, le quotidien du New York Times révèle que justement en mai 2018, l'université de New York vous reconnaît coupable d'harcèlement sexuel envers un étudiant sur l'un de vos élèves. L'enquête est en cours. La justice n'a pas encore donné son verdict définitif, donc vous ne pouvez pas en parler aujourd'hui. Mais vous décidez de rajouter une préface.
Oui, lorsque vous dites élève, ça... Non, de toute façon, je suis malheureusement, je peux pas me défendre, c'est très fatigant et affligeant. Il s'agit d'un adulte. Bon, et je peux dire seulement qu'il s'agit des allégations sans preuve, sans évidence. C'était vraiment affligeant, c'est choquant pour moi et pour les autres et ça fait partie de ce mouvement que j'avais d'ailleurs plus ou moins soutenu, évidemment, de MeToo et d'autres mouvements tout à fait justifiés et nécessaires. Donc, ça m'a vraiment choquée. Je ne sais pas quoi en dire. Être accusée à tort, c'est vraiment... Tu te trouves les nuits seule avec Kafka, ça c'est sûr. Je lui parle souvent maintenant et je lui dis la différence entre mon expérience et ce qu'il a nous a montré.
Ça ferait un bon sujet de livre d'ailleurs.
Ah, merci.
La question portait sur la violence, parce que la violence que vous décrivez dans les rapports d'enseignement était liée à cette affaire, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours ressenti en tant qu'élève vis-à-vis de vos professeurs et inversement?
Non, c'est très bizarre parce que j'ai vu que même dans ce livre-là, c'est comme si j'avais écrit le playbook. C'est-à-dire, c'est déjà là. J'ai toujours senti les problèmes d'envie, de parasite, de jalousie des étudiants qui comprennent pas ce que je veux dire d'une part, ou qui n'ont pas la patience, ou qui m'aiment bien mais qui veulent pas être dans cette situation tout à fait asymétrique et lamentable. Souvent ils sont exploités par l'institution, ils n'ont pas des boulots dignes d'eux et de leurs études. Donc je comprends, mais j'ai toujours cru qu'il y avait des situations agonistiques et sinon conflictuelles. En Amérique surtout, on est très obligé à plaire aux étudiants. C'est vraiment
Et ça difficile. Modifie l'enseignement de la philosophie.
L'enseignement de la littérature. Oui, ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit... C'est vraiment une espèce de business... aux États-Unis, parce que eux, ils payent très cher, pas les graduate students, ils sont payés pour terminer.
Ils sont diplômés, oui.
Oui. Donc, il y a déjà une espèce de guerre civile entre et des générations. Il s'agit aussi des générations différentes. C'est répété souvent dans cette. C'est même pas une guerre. Ce qui s'est passé au niveau des médias sociaux, c'est-à-dire tout le monde m'a attaqué. C'est plutôt schmittien, parce que on voit pas l'ennemi.
De Carl Schmitt.
Oui.
Qui pense que la guerre, c'est en fait, c'est des États qui sont ennemis entre eux. Enfin, la politique.
Oui, mais il n'y a pas que ça serait mieux. Et ça nous aidera de trouver et localiser un ennemi. Là, ça se localise pas. Mais je voulais juste dire que la question de mon âge s'est souvent soulevée. C'est-à-dire que c'est des gens qui, je ne sais pas, il s'agit de quel âge. Moi, je dis, il s'agit de l'âge de la déconstruction.
Votre âge?
Oui.
C'est quel âge?
C'est-à-dire que de quoi est-ce qu'on se plaint lorsqu'on se plaint mon âge, que je suis une femme? Ça, c'est la blague absolue, ouais. Trop puissante. Alors que j'ai tout perdu dans 5 minutes, est-ce que c'est ça la puissance? Bon, il y a des images.
Non, ce qui est fou, c'est que ce soit arrivé alors que vous étiez en train d'écrire un livre sur la plainte.
C'est ça qui est très bizarre et je me demande si j'ai pas inventé le truc comme un truc de marketing. Mais c'est pas le cas, c'est vraiment très grave et très violent. Mais j'ai toujours senti la possibilité de me faire attaquer parce que je suis une espèce de râleur audacieuse. Et je suis pas assez docile et mon rapport au langage est lui-même violent.
Une autre personne va vous poser une question ou plutôt faire part de son expérience. Écoutez-la.
Je rêve et je retiens mes rêves. Je les retiens par les franges comme ça. C'est-à-dire que pendant la nuit, je note très rapidement quelques germes de rêves. Alors ça donne des choses extrêmement bizarres, c'est pas particulièrement joli, c'est quasiment illisible, mais j'arrive à reconstituer quand même le matin. Ce qui m'embête, c'est que parfois j'écris un rêve sur un autre parce que j'ai pas retourné mon papier.
Il est temps de pénétrer dans votre atelier, Vital Renel, de voir comment vous travaillez. Le témoignage que l'on vient d'entendre, cette personne qui dit que... Elle travaille sans doute en rêvant, en tout cas elle note ses rêves, c'est celui d'Hélène Cixous.
Oui,
que vous connaissez
oui.
Bien.
Oui, oui. Oui, elle est importante pour moi, oui, tout à fait.
Pourquoi est-elle importante?
Ah, elle m'a appris beaucoup de choses et elle était d'une générosité avec moi lorsque j'étais perdue et personne. Et elle a inventé un poste pour moi à Paris. Elle m'a accueillie. Elle était vraiment très importante dans ma vie. Aussi une femme d'une intelligence et capacité. Et une beauté absolument singulière. Donc, pour moi, c'était moi qui n'a jamais même eu un prof femme.
Alors, qu'est-ce que ça change, ça, justement?
D'une part, rien. D'autre part, c'est un autre amour qu'on apporte à la personne qui porte la parole, qui est le sujet censé savoir quelque chose, supposé savoir. Il y a une espèce de tension et en même temps, tu te sens faussement beaucoup plus chez toi. Bon,
c'est une philosophe femme ou quand c'est Hélène Cixous?
Disons Hélène Cixous. Là, je me sentais dans une espèce d'identification intox. Je ne sais pas comment dire. J'étais très addict d'elle. Et elle était toujours un objet de fascination pour moi. Ce qui veut dire que je suis très aveugle. Si on est vraiment fasciné, on voit très peu.
Mais être femme philosophe, ça signifie quelque chose? Est-ce que c'est genré, la philosophie?
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est une espèce de, moi je pratique ça comme une espèce de, j'ai des faux papiers, disons, des faux papiers et je m'introduis dans la philosophie comme une espèce de criminelle. Je me sens pas.
Parce que vous êtes une femme?
Oui, tout à fait. Lorsque je suis marquée comme une femme, ce qui arrive souvent. Par exemple, j'étais, il y a longtemps de ça, en Allemagne, je parlais de Heidegger, j'étais la seule femme invitée dans un colloque et j'ai parlé de la figure de la mère dans Heidegger. Tout le monde a dit, mais il n'y a pas de mère dans Heidegger, il n'y a pas de femme, c'est quoi cette histoire? Et ils m'ont interrompu, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement révolté qu'il pouvait même pas lire un texte matériellement. Il y avait beaucoup de violence autour de ça. Tu n'étais pas la bienvenue.
Mmh. Et c'est encore le cas aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis un paria. Je suis très bien. Ça m'a guéri, ça m'a gardé en vie de venir ici en France. J'ai eu la chance d'avoir pu quitter les États-Unis pour quelque temps. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si je peux publier en Amérique. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. C'est vraiment absolument pas négociable. En ce moment, ça va se changer peut-être parce qu'on adore les comebacks, on adore assassiner, les icônes, je ne dis pas, mais je le dis trop vite. Donc, on adore les revenants, mais je ne sais pas si je vais pouvoir revenir ou pas. On ne sait pas comment ça va se présenter.
Comment vous décidez du moment où vous commencez un livre, où vous dites j'ai une idée, j'ai un thème, il y a quelque chose qui me parle, et vous décidez, vous ouvrez votre ordinateur et vous commencez un livre. Comment ça se passe, ce processus?
Bon, je suis très très influencée par Benjamin, Walter Benjamin et Karl Kraus, et donc j'entre dans mon usine des nerfs endommagés. Et je me demande qu'est-ce qui m'agace, qu'est-ce qui me tracasse, qu'est-ce qui me semble insupportable, invivable, qu'est-ce qui va m'étouffer? Donc, il faut que je fasse face à ça. Et c'est par une espèce d'effet de choc que je me rends à un sujet ou un thème.
Donc, c'est d'abord insupportable?
C'est quelque chose, oui, qui me menace à mort, oui. Oui, qui est très dur à endurer et qui me mange la peau et la peau, et c'est un grand hall d'accueil pour moi. Donc, quelque chose que je dois régler, et il s'agit aussi de la gestion de la colère. Si je suis vraiment en rage, à ce moment-là, il faut que je conclue une espèce de contrat ou amitié avec cette chose ou cette personne ou cette œuvre, qu'on se voit, qu'on discute. Donc souvent, c'est une espèce de haine refoulée, sublimée en amour et intérêt qui me pousse et me motive vers quelque chose.
Et c'est un plaisir d'écrire ?
Au début, c'était un cauchemar. Écoutez, c'est comme vous savez très bien, parce que je vous ai lu aussi, mais je ne sais pas si ça vous fait mal, mais c'est une espèce de difficulté, c'est un travail corporel. Bon, ça m'a rendu malade pendant des années et je me suis demandé pourquoi, qui fait ça? Et d'autre part, qui publie le caca qu'on a écrit? C'est de la folie. C'est vraiment, tu invites tout le monde à te juger. Là, vous allez voir que je suis aussi paranoïaque, ce qui est vrai. Alors, dès que tu laisses partir un livre, tu attends que les autres te disent quelque chose ou et souvent ils disent rien. Alors là, tu peux le tribunal te parle en leur remplaçant. C'est-à-dire, c'est très sévère comme expérience. Et je me demande si cette punition n'est pas un peu nécessaire comme l'a dit Freud sur Dostoïevski. C'est-à-dire que c'était un moment où tout devenait très dur et problématique que Dostoïevski, dans son masochisme, pouvait enfin respirer. Donc, je ne sais pas, mais c'était une grande lutte. Ça m'a rendu... J'étais malade souvent. Souvent, les écrivains, ils sont au lit, ils sont malades. On ne peut pas vraiment distinguer entre l'acte d'écrire ou de se soigner. Donc, mais là, maintenant, au contraire, c'est une compagnon, c'est une amie. On rit ensemble. C'est un lieu très important pour me garder en vie.
Est-ce que vous pensez que la philosophe que vous êtes a un rôle politique à jouer?
Tout à fait, mais là, j'étais vraiment... C'est dommage parce que j'étais très militante contre cette espèce de Trump, président qu'on a aux États-Unis maintenant. J'étais vraiment très active et là, comme j'ai ce procès devant moi, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire. Je me sens vraiment... je ne sais pas comment dire.
Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on enseigne la philosophie à l'Université de New York contre Donald Trump?
Donc, il faut faire très attention à ne pas trop faire à l'intérieur de l'université parce que, d'abord, NYU est très cher. Donc, cela veut dire qu'il y a une population républicaine et peut-être même trumpiste qui est devant toi. Donc, tu fais autrement. Mais en dehors de l'université, j'avais des actions, j'avais des idées parce que le Trump Tower est à New York, il vient de New York. Donc, je voulais faire des performances et tout ça. J'ai écrit des textes sur lui, contre lui. Et là, c'est vraiment, en ce moment, j'imagine, mais je ne me rends pas compte parce que les gens, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais je suppose que je n'ai plus d'autorité. Donc, ça serait ridicule que je continue à agir comme si on devait m'écouter alors qu'on a déplacé les plaintes qu'on a aurait pu adresser à Trump, à moi. C'est moi maintenant l'harceleur. Sexuel, c'est pas lui. Donc, c'est moi la personne dérisoire. Donc, il y a une espèce de bizarre échange de... Mais maintenant, on appelle Trump, depuis quelques semaines, Tweetler.
en référence à sa frénésie sur Twitter, puisqu'on oui, fait des très féroces des tweets. Et c'est un, est-ce que ce, l'élection de Donald Trump, la manière qu'il a d'exercer la politique, est un danger pour la philosophie? Est-ce que vous opposez les deux directement?
Oui, c'est parce que il avait quelque chose qui s'appelait l'université Trump. Donc, il est très investi dans l'intelligence, la brillance. Il dit souvent qu'il est super intelligent et que, par exemple, il est un génie stable. Bon, j'ai jamais connu un génie stable, à part lui, évidemment. Donc, il est très investi dans la rhétorique du savoir et tout ça. Donc, j'imagine qu'on pourrait, mais il est tellement malade mentalement que je ne sais pas si on peut avoir le code d'accès à cette sensibilité, pour le dire trop vite. Mais apparemment, c'est pour lui très important d'être, bon, dans son narcissisme énorme, d'être reconnu comme intellectuel. Donc, ça fait rire. En même temps, c'est une clé pour arriver à quelque chose. Je ne sais pas, je rêve là.
Mais alors, indépendamment du fait que vous ne soyez plus aux États-Unis en ce moment, je vais reformuler ma question en la retournant. Quelle arme avez-vous à votre disposition pour vous battre contre ça, quand on enseigne la philosophie, quand on écrit des livres?
Oui. Bon, on a... D'abord, lui, c'est pas... il n'a rien... inventé ou révélé, mais c'est la révélation nihiliste de quelque chose qui le précède. Et rien de nouveau vient de lui, mais il est une espèce de haut-parleur et encore plus vulgaire que les précédents. Il est vraiment le portrait de l'Américain, the ugly American, laid. Mais donc, il est un signe, un signe de quelque chose qui a toujours été là et qu'on est obligé de comprendre et d'analyser. Donc les gens
votre livre sur la stupidité, pardonnez-moi de faire le rapprochement, il est paru bien avant l'élection de Donald Trump, c'est 2006.
Voilà. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas compris ce que Kant voulait dire que, bon, un aspect de la stupidité, c'est les gens qui se prennent pour intelligents ou qui font comme s'ils étaient intelligents. Moi, j'ai pas compris au début. J'ai dit, mais si on peut feindre l'intelligence, cela veut dire qu'on est intelligent. Mais non, Kant avait raison lorsqu'il a parlé de Trump déjà. C'est-à-dire que il veut être reconnu comme intelligent. Donc, il s'agit de cette stupidité que Flaubert a su nommer et mettre en scène. Donc, c'est une invention monstrueuse de Flaubert, déjà. Lui, c'est... Bon, il parle même plus d'accord.
C'est Homais, vous pensez à Homais.
À Homais, oui, sauf que les drogues qu'il donne ne font rien. Mais aussi au Bouvard et Pécuchet, qui, lui, pense qu'il a la solution à tout. Et eux aussi pensaient qu'ils pouvaient très vite régler les choses. Donc, il est un peu comme eux, et comme Homais, tout à fait comme le pharmacien. Donc, il y a une espèce de bêtise qui croit pouvoir... Bon, par exemple, il dit, au lieu de accord dans la rhétorique politique. Maintenant, tout est un deal. Donc, tout est comme...
Ah, mais que la langue change, et surtout en politique, ça, on en est tous témoins, quel que soit le pays, je crois, sur la planète.
Voilà.
On va se quitter avec une musique, Avital Ronald, on n'en a pas écouté au cours de cette émission. Eh bien, vous pouvez choisir. Est-ce que vous préférez qu'on se quitte avec un lead de Franz Schubert ou un chant de Henri Purcell? Qu'est-ce que vous préférez?
Peut-être Schubert, à ce moment.
Alors, dites-nous deux mots sur ce chant avant qu'on écoute, parce qu'on va parler sur Schubert.
D'une part, comme je souffre des deuils pathologiques, je suis toujours malheureuse que Schubert est mort à l'âge de 32. C'est pas possible. Et donc, il a écrit 600 chansons, et là, il s'intéressait à la poésie. Et là, c'est vraiment, il s'adresse à la musique, mais ça lui revient comme une espèce d'injonction. Il faut qu'il fasse une musique qui soulage, qui guérisse, qui pourrait nous guérir, qui pourrait nous parler à nos états dépressifs et nos catastrophes, quoi.
Eh bien, nous voilà en condition pour écouter ce chant Andy Music, l'opus 88 numéro 4, aussi appelé de Hall de Kunst. Merci beaucoup, Avital Ronel.
C'est moi, merci.
Nous parler de votre travail ce matin. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Ce soir, vous serez devant votre poste de télé, n'est-ce pas?
Et oui, pas vous, Adèle?
Bah évidemment, enfin j'ai pas de télé, mais...
Bon, je serai devant le match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine de foot. Ça commence par France-Corée du Sud et c'est donc ce soir à 21h.
C'est le match d'ouverture.
Est-ce qu'on va avoir l'énergie nécessaire pour aller chercher la victoire ce soir?
Le premier de la Coupe du Monde. De leur Coupe du Monde.
Toute la nation sera derrière cette équipe de football.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Allez mettre de la pression d'entrée.
Vendredi soir.
Imposez-vous d'entrée.
Ambiance des grands soirs au parc.
Au Parc des Princes, je serai présent à la finale pour les encourager aussi.
Elles sont prêtes.
Motivées.
Nous aussi.
Avec une pression...
France-République de Corée. Match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine de la FIFA.
Depuis quelques semaines, le compte à rebours a commencé, les encouragements se multiplient, mais pas que. La pression monte, mais pas que du côté des joueuses, car on a eu droit, mercredi soir et jeudi, à une polémique suite à des propos tenus par Alain Finkielkraut. Ce dernier a en effet déclaré qu'il n'aimait pas le football féminin, qu'il n'avait pas envie de voir les femmes comme ça, et à quoi bon l'égalité, l'égalité, un peu de différence. Je cite bien sûr. Cependant, à côté de ça, il faut le dire, il y a eu plein de débats intéressants et de documentaires passionnants qui, plutôt que de passer par la déclaration ont interrogé ce genre de clichés, d'a priori, ont questionné l'égalité dans le sport, la visibilité des femmes sur le terrain ou la virilité de la performance. Un an et plus après le mouvement MeToo et la libération de la parole, on a assisté au prolongement de cette libération, non plus mettre à l'épreuve le langage dans ce qu'il a d'aliénant ou au contraire d'émancipateur pour les sexes et les genres, mais mettre désormais à l'épreuve l'action, le physique, les corps dans ce qu'ils ont d'aliénant ou au contraire d'émancipateur pour les sexes et les genres.
C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne.
Par quoi est passée et par quoi passe encore aujourd'hui la libération des femmes ? Droits, sexualité, économie, la libération a d'abord été une sortie d'un état négatif, l'espace clos de la vie domestique, pour prendre ensuite la forme positive d'acquisition de possibilités, de droits et de libertés concrètes. Agir librement et à égalité des hommes a ainsi été le mot d'ordre du féminisme. Alors je dis simplement, et je passe, je l'avoue, sur toutes les différentes mouvances qui structurent le féminisme, car ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'il faut entendre précisément par agir. On a souvent interroger les concepts de liberté et d'égalité, mais moins celui d'action. Or, c'est pourtant bien celui-ci qui s'impose avec le sport ou avec le travail, par exemple. Agir, est-ce toujours synonyme d'être actif, de ne pas subir ? Est-ce forcément le contraire de la passivité ? Et être en action, est-ce faire l'épreuve de la contrainte ou au contraire tenter de s'en affranchir ?
J'aime aussi le fait que ce soit un sport d'équipe, vu que je suis quelqu'un d'extrêmement hyperactif et ça me permet de vraiment me défouler et de me surpasser. Ce côté féministe où t'as aussi une différence des corps, la différence d'âge, le côté do it yourself. Tu sais pas patiner, bah t'inquiète, non, peut-être que dans 6 mois, bah, tu joueras en match et peut-être que tu joueras en championnat en fait. Et t'as le côté empowerment, soutien, solidarité, qui est hyper visible.
Le sport nous met face à cette question. Comment jouer, voire transcender, dépasser des règles de jeu, des codes d'équipe et d'usage ou les limites de notre corps ? Le travail soulève, lui, ce problème. Comment, d'un acte contraint socialement et financièrement, puis-je toutefois m'accomplir ? L'action met ainsi au jour cette articulation, celle-là même qui se joue au sein de la question de l'égalité femmes-hommes, entre ce qui est contraint, subi, et ce de quoi on s'affranchit et comment. L'action sportive ou laborieuse partage ainsi, et c'est assez frappant, la même problématique que celle de la libération des femmes. C'est pour ça que la Coupe du Monde féminine de football ne pouvait pas avoir lieu comme si de rien n'était. De fait, la question devait se poser, comment performer le genre à travers la performance sportive elle-même, à travers le fait d'agir, de se mettre en mouvement et d'éprouver son corps.
Merci beaucoup Géraldine, et vous aviez une annonce à faire passer.
Oui, si vous n'aimez pas le foot, vous pouvez aller ce soir à la nuit Sciences et Lettres de l'ENS à Paris autour du thème des origines. C'est ce 7 juin, dès 17h30. Vous pouvez assister à des tables rondes, des conférences, des événements artistiques, origine des mots avec le linguiste Alain Rey, la société numérique avec l'économiste Daniel Cohen ou des identités avec le dessinateur Riyad Satouf. C'est donc toute cette nuit jusqu'à 2h. C'est ouvert à tous et c'est à l'École Normale Supérieure rue d'Ulm.
C'est noté, merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Elsa Le Saulnier, Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine pour vous, Pierrick Monsigny qui est à la prise de son aujourd'hui. Lundi prochain, ce sera vous, Géraldine Mosna-Savoie, qui sera au micro des Chemins de la Philosophie pour une semaine autour du père. Qu'est-ce qu'un père ? Faut-il abolir le patriarcat ? Et deux études de cas chez Dostoïevski et ses frères Karamazov, ainsi que chez Shakespeare, avec Hamlet et Le Roi Lear, tout un programme paternel qui vous reviendra donc, chère Géraldine. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission, ce Profession Philosophe, en compagnie d'Avital Ronel, la série sur Pasolini, qui nous a accompagnés depuis lundi, ainsi que toutes les émissions précédentes depuis des années, elles sont accessibles à la réécoute, ou bien en téléchargement, hein, en podcast, vous pouvez les écouter où vous voulez, quand vous voulez, et les garder pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ça vous est habitué, désormais Instagram, les Chemins de la Philosophie ont un compte où ils espèrent bien vous croiser bientôt. À lundi donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.